Bonsoir. La loi travail toujours contestée. Plusieurs sites industriels ont été bloqués aujourd'hui, des raffineries et des ports principalement. Les manifestations ont eu lieu comme prévu dans les principales villes du pays, sans que l'on note une hausse de la participation. Nous irons à Toulouse, où l'usage du 49.3 à l'Assemblée la semaine dernière ne passe décidément pas. Et puis à Paris, où la fin de la manifestation a été émaillée d'incidents tout à l'heure. Nous serons également en direct avec le politologue Rémi Lefebvre, spécialiste de la gauche. Il nous aidera à décrypter la séquence politique et sociale du moment. À l'étranger, fin de la réunion sur la Syrie, à Vienne, sous l'égide des États-Unis et de la Russie, les grandes puissances se fixent début juin comme objectif pour une reprise des pourparlers. Du grain à moudre avec vous, Hervé Gardette, à partir de 18h20. Quel est le programme ?
Mixité sociale. Pourquoi l'école devrait-elle être exemplaire ? Nous allons discuter avec Frédéric Rollet, Marie Durubella et Pascal Balmont.
À tout à l'heure, 18h20. Le passage en force de Manuel Valls la semaine dernière à l'Assemblée va-t-il agir comme un chiffon rouge pour les opposants à la loi travail ? En clair, le 49.3 va-t-il donner un nouveau souffle à la mobilisation ? On a un premier élément de réponse ce soir. Les syndicats FO et surtout la CGT ont bloqué, comme prévu et annoncé, plusieurs sites portuaires dans la matinée, principalement Saint-Nazaire et Le Havre. La raffinerie Total à Donge est elle aussi à l'arrêt, avec 92% de grévistes sur les 700 salariés du site. Les routiers également ont provoqué d'importants ralentissements tôt ce matin aux abords de plusieurs villes, Nantes, Caen, Rennes, Rouen, Le Mans, Lorient, Fos-sur-Mer ou encore Perpignan. Un centre logistique a été bloqué près de Lille ou encore une centrale d'achat près de Bordeaux. En attendant, à partir de demain, l'appel à la grève de la CGT cheminots à la SNCF. Et puis en plus des blocages, il y a eu de nombreuses manifestations. Entre 11 000 personnes selon la police et 55 000 selon la CGT à Paris. À Rennes, ils étaient entre 1 000 et 2 000, 4 à 5 000 à Bordeaux. Puis à Toulouse, ils étaient 2 000 ou 8000 selon les sources. Reportage Frédéric Bourgade.
Les salariés devant, les jeunes derrière, drapeau au vent. CGT partout, force ouvrière un peu, mais surtout une majorité d'inorganisés. Ils n'ont pas écouté ce matin le président à la radio, mais à l'image de Bernard Lagueny, conducteur de bus, ils sont toujours déterminés.
Depuis le début, je suis là. J'ai le sentiment d'être utile à mon pays, parce que si ce monsieur vivait avec 1 400 € par mois, peut-être que ce genre de choses, il y réfléchirait à deux fois. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas ce qui se passe en France. Il suffit d'une petite étincelle pour que tout se décante. Vous savez, à la veille de 68, personne n'aurait dit qu'il y aurait des manifestations monstres et des usines occupées. Le peuple peut toujours se réveiller à n'importe quel moment.
Demain, les cheminots seront également en grève. Et jeudi, une nouvelle manifestation est prévue. Le président de la République a parlé ce matin d'une loi équilibrée. Ce qui, avec le 49.3, n'est pas de nature à calmer les esprits, estime Cédric Cobert, secrétaire départemental de la CGT.
C'est un équilibre qui penche plutôt du côté des patrons. D'ailleurs, on voit que M. Gattaz se pour lèche les babines. Nous nous battons non seulement pour le retrait du projet de loi, mais aussi pour obtenir des négociations sur la base d'un vrai code du travail, un code du travail du 21e siècle.
Les manifestants iront demain devant la préfecture demander des comptes sur les violences policières. De leur côté, les policiers se rassembleront devant le commissariat pour dénoncer la haine du policier.
Et une nouvelle fois, certains cortèges ont été émaillés de violence dans plusieurs villes. À Nantes, cela a été toutefois moins violent que lors des précédentes manifestations. 10 personnes, dont 4 mineurs, toutefois, ont été interpellées. Certaines vitrines de magasins ont été brisées. Puis à Rennes, manifestants et policiers ont joué au chat et à la souris toute la journée, les derniers empêchant les premiers de pénétrer dans un centre commercial ou encore sur la rocade de la ville. C'est peut-être à Paris, finalement, que la situation a été le plus tendue. Bonsoir Hélène Tarzian.
Bonsoir.
Vous avez suivi le cortège parisien qui est arrivé il n'y a pas très longtemps à Denfert Rochereau. Il y a eu des débordements.
Ah oui, une manifestation très tendue ici à Paris, à tel point qu'on en oublie le message principal contre la loi travail. Alors, à l'heure où je vous parle, les manifestants se sont dispersés, mais la violence a duré pendant tout le défilé. Les CRS ont minutieusement quadrillé le parcours. On pouvait les voir presque à tous les coins de rue pour contenir les débordements. Les manifestants, eux, étaient pour la plupart très équipés, casques, masques, lunettes, foulards, sérum physiologique pour atténuer l'effet des gaz lacrymogènes lancés par les CRS. Des CRS qui répliquaient aux tirs de pétards et de pavés de certains manifestants. Tout le monde déteste la police, pouvait-on entendre en boucle. Mais cette journée de mobilisation, elle est surtout marquée par les tensions entre certains manifestants et le service d'ordre des syndicats, la CGT notamment, avec ce nouveau slogan « Service d'ordre collabo ». Pour la première fois, ce service d'ordre était lui aussi équipé de casques, de masques et parfois même de bâtons en guise de matraque. Un attirail me confiait l'un d'eux pour se protéger des casseurs suite au débordement des manifestations précédentes. Et signe du malaise entre service d'ordre et manifestants, la CDT a même choisi de séparer la fin du cortège pour que la dispersion se fasse dans le calme.
Merci beaucoup Hélène Terzian, vous avez suivi donc cette manifestation parisienne contre la loi travail. Notez que Bernard Cazeneuve fait savoir que 53 personnes au total en France ont été interdites de manifestation par arrêté aujourd'hui. Sur les 10 qui contestaient justement ces arrêtés devant la justice administrative ce matin en référé à Paris, 9 ont obtenu gain de cause, le juge évoquant, je cite, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Et pendant ce temps-là, François Hollande, invité ce matin sur Europe 1, l'a répété, cette loi elle va passer, trop de gouvernements ont cédé, cette loi a été discutée, concertée, corrigée, amendée. Bonsoir Rémi Lefebvre.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Lille 2, adhérent socialiste vous-même. Est-ce que finalement, comme le dit François Hollande, l'exécutif est si sûr de lui que ça?
Bah écoutez, apparemment le cap il est clair. Hein. François Hollande ce matin a indiqué sur Europe 1 qu'il ne céderait pas. Donc il est dans la continuité de ses choix précédents. Il veut absolument que cette loi passe. Elle a déjà été modifiée une fois. Elle est critiquée à droite. La droite lui reprochant d'être vidée complètement de ce contenu. Donc là on est dans une posture décisionnelle de François Hollande qu'il a adoptée depuis quelques années maintenant. C'est celle d'un cap qu'il ne veut pas amollir. Il veut être celui, le président des réformes. Hein. D'ailleurs, il a évoqué la filiation à Gerhard Schröder ce matin, ce qui est tout à fait inédit de la part d'un président socialiste, puisque Schröder c'était plutôt un repoussoir. Et donc, il veut incarner le président qui réforme, qui va jusqu'au bout, on pourrait dire qui est droit dans ses bottes, sous un angle plus critique, mais donc qui assume sa politique et qui veut la mener à bien.
Oui, mais en même temps, ceux qui manifestent aujourd'hui contre la loi travail, ce sont ceux, pour beaucoup en tout cas, qui ont voté pour lui en 2012. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'on peut recoller les morceaux?
Bah écoutez, ce qui est un peu contradictoire, c'est que François Hollande a besoin de la gauche, des électeurs de gauche, de ses électeurs de 2012 pour se qualifier pour le second tour. Et évidemment, ce qu'on observe, c'est que la politique qu'il mène radicalise plutôt les électeurs de son camp. Alors, c'est vrai quand même que les gens qui manifestent, c'est sans doute plutôt des électeurs qui étaient sans trop d'illusions à l'égard de François Hollande. Mais on voit dans les sondages que la défiance à l'égard de la loi travail, mais aussi à l'égard de François Hollande, touche des segments très larges de l'électorat. Et c'est vrai que du coup, on se demande où est la rationalité électorale, puisque François Hollande est en campagne, hein, c'est assez clair. Et comment François Hollande va mobiliser ses électeurs et comment il compte articuler cette idée de constance, de détermination avec la possibilité quand même d'être qualifié pour le second tour.
Rémi Lefebvre, je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à Lille 2. Justement, vous l'avez dit, il n'est pas encore candidat, mais il s'y prépare, François Hollande. Il a dit ce matin qu'il n'y a pas d'alternative à gauche en dehors de la ligne qu'il représente, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que lui qui pourrait éventuellement arriver au second tour de la présidentielle. Est-ce qu'il a raison?
Bah écoutez, dans les sondages aujourd'hui, Mélenchon grignote des parts de marché. Il n'est pas très très loin du score de François Hollande. Ce que veut dire François Hollande, sans doute, c'est que la gauche aujourd'hui, elle est atomisée. Finalement, elle apparaît à la gauche du PS peu porteuse d'alternatives. On le voit bien avec Nuit Debout, puisque finalement, il y a des mobilisations, mais une ligne alternative n'est pas vraiment définie. Donc je pense que le calcul de François Hollande, c'est de jouer l'atomisation de la gauche. Je pense que le calcul qu'il fait aussi, qui est un calcul très audacieux, c'est de penser que la primaire à droite va droitiser le débat public et qu'au fond, in fine, au final, au premier tour de l'élection présidentielle, il apparaîtra comme le candidat le plus crédible et le plus à gauche. Donc je crois que c'est un pari sur l'évolution des plaques politiques qui vont se jouer dans les mois qui viennent. En tout cas, c'est un pari qui est très complexe à tenir et très périlleux.
Merci beaucoup Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à Lille 2, vous-même adhérent socialiste, d'avoir été en direct ce soir sur France Culture. On parle des divisions profondes à gauche, mais à droite ce n'est pas forcément mieux. Plus on approche des 20 et 27 novembre, date des primaires organisées pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle, plus la situation se tend. Le dernier psychodrame en date, c'est la décision du président du parti Les Républicains de faire voter les électeurs de cette primaire à l'étranger uniquement dans des bureaux de vote et pas par internet. Depuis, tous les candidats déclarés à la primaire, de Fillon à Juppé en passant par Le Maire, sont vent debout contre cette décision de Nicolas Sarkozy, à tel point que, chose rarissime, à l'heure qu'il est, ils sont tous présents en ce moment à la réunion du bureau politique du parti. Alors en quoi cette histoire de vote des Français de l'étranger est-elle si importante pour eux, Stéphane Robert ?
C'est important parce qu'il s'agit de faire respecter ce qui a été convenu au départ entre les différents candidats à cette primaire. Si Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire laissent Nicolas Sarkozy changer les règles comme bon lui semble, comme ça à quelques mois de l'échéance, il laisse la porte ouverte à d'autres manœuvres potentielles. Or, sur les Français expatriés, ça fait des mois qu'il est convenu de mettre en place un vote électronique, compte tenu de la difficulté technique d'établir des bureaux de vote à l'étranger. Et jusqu'ici, les sarkozystes, membres du comité d'organisation, Luc Châtel ou encore Brice Hortefeux, n'avaient rien trouvé à y redire. Ensuite, si l'on considère que le vote des Français de l'étranger reste marginal, 10% de l'électorat potentiel, ça fait 100 ou 150 000 personnes tout au plus, il ne faut pas le négliger, car ça pourrait être extrêmement serré au bout du compte entre les quatre principaux candidats pour l'accès au second tour de cette primaire. Enfin, si l'on considère que c'est un électorat globalement aisé, plutôt libéral et très diplômé, on peut imaginer qu'il sera moins sensible aux arguments d'un Nicolas Sarkozy qui s'apprête à mener une campagne très droitière et très clivante qu'aux propositions plus consensuelles d'un Alain Juppé ou d'un Bruno Le Maire. Alors la proposition de compromis que s'apprête à proposer Thierry Soler, président du comité d'organisation, à savoir d'organiser un vote papier dans les grandes agglomérations à l'étranger et un vote électronique ailleurs, est-elle susceptible de convenir à tous les candidats? C'est ce qu'on verra à l'issue de ce bureau politique qui commence à peine et au cours duquel pourraient bien retentir quelques éclats de voix.
Le titre est un programme à lui tout seul. Les députés examinent à partir de ce soir le projet de loi pour une justice du 21e siècle, dernière grande réforme judiciaire du quinquennat. Elle avait été lancée par Christiane Taubira, mais aujourd'hui, c'est son successeur, Jean-Jacques Urvoas, qui la porte. Bonsoir Marie-Pierre Véro.
Bonsoir Antoine.
Un projet de loi qui se veut ambitieux, donc on l'a vu dans le titre, assez hétéroclite en fait, pour ne pas dire fourre-tout.
Divorcer devant notaire, changer de prénom à la mairie, ne plus passer systématiquement par la case juge en cas de surendettement ou pour certains délits routiers, faciliter les actions de groupe, supprimer les tribunaux pour mineurs avec de petites mesures et d'autres plus ambitieuses. C'est un texte en effet un peu fourre-tout, le seul que présentera le garde des Sceaux, ceci expliquant sans doute cela. Un texte qui répond toutefois à une logique assez pragmatique. Dans un contexte budgétaire contraint, il s'agit de recentrer le juge sur son cœur de métier en lui épargnant les procédures où sa valeur ajoutée est faible. Par exemple, le divorce par consentement mutuel, il est agréé dans 99,9% des cas par le juge, fait-on valoir au cabinet du ministre. De même, pour les dossiers de surendettement validés par la Banque de France dans 98% des cas. L'objectif est bien là, désengorger les tribunaux. Alors, certaines mesures promettent des débats animés dans l'hémicycle, la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, mesure emblématique s'il en est du quinquennat Sarkozy, des tribunaux instaurés pour les mineurs de plus de 16 ans et des délits passibles d'une peine d'au moins 3 ans. Jean-Jacques Urvoas fait valoir qu'ils sont assez peu utilisés, ces tribunaux, et s'avère moins sévère que les juges pour enfants, mais le débat aura sans doute lieu. Le garde des Sceaux tient aussi à renforcer les pouvoirs du JLD, le juge des libertés de la détention. C'est très important pour lui, son rôle ne cesse en effet de s'accroître. C'est ce juge qui intervient sur la détention provisoire pour autoriser écoutes ou perquisitions dans la phase d'enquête. C'est lui qui sera aussi amené à traiter de la rétention des étrangers. Il est présenté comme un contre-pouvoir, une garantie pour les libertés publiques, alors que la future loi sur la procédure pénale va renforcer les pouvoirs du parquet et fait passer dans le droit commun plusieurs mesures de l'état d'urgence. Mais certains redoutent que tout cela ne participe à l'affaiblissement du juge d'instruction indépendant de tout pouvoir, sans oublier que les moyens du JLD sont pour leur limiter, et ceux de la justice encore plus, puisque la loi va également enterrer la mesure phare annoncée après le fiasco d'Outreau, une collégialité des débats avec 3 juges d'instruction au lieu d'un seul. Impossible à trancher la chancellerie, il faudrait créer au moins 300 postes supplémentaires.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véro. La Syrie maintenant, objectif premier, obtenir un cessez-le-feu durable et réel et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. La réunion du groupe international de soutien à la Syrie vient de s'achever à Vienne, sous la présidence conjointe de la Russie et des États-Unis. Bonsoir Ludovic Pietenu, vous êtes à Vienne.
Bonsoir Antoine.
L'Américain John Kerry a voulu durcir le ton.
Oui, dans cette conférence de presse, c'est lui qui s'exprime en premier. L'air grave, ceux, dit-il, qui sont engagés dans ce conflit avec des agendas et des objectifs concurrents vont devoir donner priorité à la paix. Et nous avons démontré aujourd'hui que tous les participants autour de la table, même ceux qui ne sont pas des alliés, sont d'accord sur un socle commun, 3 objectifs, réduire le niveau de violence, augmenter l'aide humanitaire et relancer les négociations de Genève. Le groupe international de soutien à la Syrie insiste donc sur la nécessité de respecter le cessez-le-feu, arraché en février à Munich. Il insiste aussi sur la nécessité de fournir assistance aux 18 villes assiégées, 16 le sont par les forces syriennes, 2 par des groupes d'opposition. 6 d'entre elles n'ont toujours pas eu accès aux moindres médicaments, aux nourritures. C'est là qu'est la seule véritable annonce du jour. Si l'aide n'y entre pas avant le 1er juin, les participants à cette réunion avec l'aide des Nations Unies et de son programme alimentaire mondial largueront des cargaisons par avion. La trêve et l'aide humanitaire offriront ensuite, espèrent les diplomates, les conditions nécessaires à une reprise des négociations à Genève qu'ils attendent pour le début du mois de juin.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu pour ces explications depuis Vienne en Autriche. En Irak, 3 attentats sanglants aujourd'hui à Bagdad. 72 personnes ont été tuées. Ces attaques n'ont pas été revendiquées. Mais évidemment, on se souvient que la semaine dernière, Daesh a revendiqué justement une série d'attentats dans la capitale irakienne. François Hollande l'a annoncé ce matin. La conférence sur le Proche-Orient initiée par la France et qui devait se tenir le 30 mai n'aura pas lieu à cette date. Le président de la République a assuré que cette initiative française se tiendra bien cet été. Mais elle est reporté car John Kerry, le secrétaire d'État américain, ne peut pas être à Paris à la fin du mois. De toute façon, cette réunion était assez mal engagée, d'autant que les principaux pays n'avaient pas encore donné leur aval, Nadine Epstein.
Effectivement, cette conférence ministérielle devait réunir dans 2 semaines à Paris les représentants des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne, des Nations unies, de la Ligue arabe et une vingtaine d'autres pays. Mais ni les Américains, ni la Russie, ni le Royaume-Uni n'avaient confirmé leur présence. Et vous l'avez dit ce matin, François Hollande a annoncé John Kerry ne peut pas venir le 30, donc elle sera retardée. Elle aura lieu en été, a ajouté le président de la République, sans en dire davantage, sauf sur la volonté de la France de mener à bien cette intervention qui vise à relancer le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens qui, pour cette réunion préparatoire, n'étaient eux pas invités. Cette initiative est nécessaire parce que si la France ne prend pas une initiative forte, qu'est-ce qui va se passer ? A demandé François Hollande. La colonisation, les attaques terroristes et un certain nombre de conflits vont se poursuivre, a expliqué le chef de l'État, et d'estimer que cette réunion de Paris entend créer les conditions qui permettront aux Palestiniens et aux Israéliens de se retrouver à la table des pourparlers. Le côté palestinien soutient pleinement la démarche française, mais pas le Premier ministre israélien. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou en a profité pour reprocher à la France son impartialité après le vote d'une résolution de l'UNESCO sur le patrimoine palestinien, d'où cette réponse ce matin de François Hollande. Il a promis que lors de la prochaine résolution en octobre, il la regarderait personnellement. Cette annonce précède de quelques jours la visite que doit effectuer en fin de semaine Manuel Valls, qui sera suivie d'une rencontre de l'ambassadeur français à Tel Aviv avec les principaux correspondants diplomatiques de la presse israélienne pour leur expliquer l'esprit de l'initiative française. On voit un numéro de charme, numéro qui est soutenu par le président égyptien qui a apporté ce matin son soutien total à la démarche française.
Merci beaucoup Nadine Epstein. Allez, on file à Cannes, une journée chargée aujourd'hui avec 3 films en compétition, signés de 2 habitués de la course à la Palme. Pedro Almodovar tout d'abord, qui présente Julieta, et puis Olivier Assayas, le dernier français en lice, avec Personal Shopper. Il y a aussi un nouveau venu, le brésilien Kleber Mendonça Filho pour Aquarius. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir Antoine.
En direct de la Croisette, comme chaque jour sur France Culture, ces 3 films sont autant de portraits de femmes.
Oui, alors côté compétiteur chevronné, il y a donc l'espagnol Pedro Almodovar pour son 6e film présenté à Cannes avec Julieta, drame intime sur un rapport mère-fille et surtout sur la culpabilité et sa transmission. On est en territoire connu, on sait combien l'auteur de Tout sur ma mère aime se pencher sur la maternité. Adapté de nouvelles de l'écrivaine canadienne Alice Munro, le film s'avère malheureusement trop linéaire et prévisible pour nous emporter, desservi qu'il est par le jeu très inégal des 2 comédiennes qui, selon les âges, interprètent l'héroïne titre. Pedro Almodovar remportera-t-il enfin la Palme d'Or dont il rêve depuis toujours avec Julieta? On peut en douter. On peut parier en tout cas que le nouveau film d'Olivier Assayas aura désarçonné le jury tant il est étrange, mélange improbable de films sur la mode, de thrillers horrifiques et de films de fantômes. Personal Shopper permet à l'auteur de Sils Maria de retrouver sa nouvelle égérie, l'américaine Kristen Stewart, déjà vue ici dans un autre genre il y a 6 jours dans le film d'ouverture des festivités cannoises Café Society. Elle était d'ailleurs plutôt meilleure chez Woody Allen qu'ici, où elle abuse de mimiques brouillonnes pour se donner l'air de chien battu de cette acheteuse de mode pour une célébrité en deuil de son frère jumeau dont elle espère la réapparition ectoplasmique. Film inégal, là encore, que Personal Shopper, avec néanmoins de très beaux moments de cinéma comme l'utilisation inédite sous cette forme de SMS pour faire monter l'angoisse.
Et le nouveau venu de la compétition, donc le brésilien Kleber Mendonça Filho, est-ce qu'il vous a plus convaincu, Antoine ?
Beaucoup plus, oui. On l'avait découvert, Kléber Mendoza Filho, il y a 4 ans, avec un film sensuel et complexe, Les Bruits de Récif. C'est à nouveau à Récif qu'il plante sa caméra avec Aquarius, du nom d'un vieil immeuble au bord de la mer, dont la dernière propriétaire, une ancienne critique musicale à la retraite, refuse de partir. Elle est jouée par la très grande star brésilienne Sonia Braga. Souvenez-vous du baiser de la femme araignée en 1984, toujours aussi fascinante, dans ce film qui raconte la pression immobilière et du marché en général sur le savoir-vivre et le vivre ensemble, avec une mise en scène époustouflante d'inventions, un peu de sang neuf dans la compétition. Ça fait du bien finalement.
Merci beaucoup Antoine Guillot, comme chaque soir en direct dans le journal de 18h sur France Culture. Un mot de météo demain, la pluie arrive par l'ouest et gagnera quasiment tout le pays dans l'après-midi, sauf en Provence-Alpes-Côte d'Azur.